Le village historique acadien vous présente la chronique dans ce temps-là avec Philippe Basque.
Bonjour Philippe.
Bonjour Claude.
Bonjour Philippe.
Bonjour Sandra.
Plusieurs sujets, mais tout d'abord, on va y aller avec les familles pionnières de Caraquette, c'est ça?
Oui, c'est qu'on recommence la saison des rendez-vous de l'histoire à Caraquette, puis c'est ça qui va être le premier sujet. Donc, ils se sont mis tous les trois historiens de Caraquette ensemble pour parler des différentes familles. Je ne les ai pas parlé, moi, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils vont faire, là, mais ils vont mettre l'accent sur le nouveau livre, pas le nouveau livre, mais la republication du livre des familles de Caraquette de Fidel Thériault. Donc, Fidel Thériault va être là cette soirée-là. C'est mardi prochain à 7h au Centre culturel à Caraquette. Et puis, il présente sa nouvelle version du livre « Les familles de Caraquette » qui avait publié 40 ans auparavant, en 84 ou en 85, puis était épuisé depuis longtemps. Puis, souvent, les gens cherchaient des copies de ce livre-là dans les ventes de garage puis dans les ventes de livres usagés parce qu'il n'y en avait plus, ça faisait un petit bout. Puis, Fidel, les dernières fois que j'y avais parlé, me disait qu'il voulait le mettre à jour. En généalogie, il y a toujours des erreurs qui arrivent, des dates qu'on se trompe ou on redécouvre un certificat de mariage ou de naissance qui n'existait pas, puis là, on le retrouve, puis là, on a marié un avec l'autre. Fait que il a fait des corrections là-dessus. Puis c'est un plus gros livre, là. Il y a probablement plus d'informations ou plus de détails généalogiques, peut-être plus d'ajouts de famille qui n'étaient peut-être pas là ou qu'on a découvert par la suite. Donc c'est un gros livre, il est épais, il est beaucoup plus épais que l'autre, il est plus large aussi. Donc, il est plus volumineux. Et puis, il n'y a pas eu assez de place pour mettre des photos, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a pas de photos, tandis que l'ancien, il y avait beaucoup de photos. Tandis que celui-ci, il n'y en a presque aucune, parce qu'il y avait peut-être probablement trop d'informations. Puis, on ne voulait pas trop le rendre épais. Il fallait que ça soit quand même abordable là, pour les gens. Fait que là, ça va être mardi prochain. Puis, ensemble, Clarence Le Breton puis Bernard Thériault vont probablement, j'imagine, c'est ça, vont présenter les familles tour à tour de Caraquette. Fait que c'est un peu ça leur format qu'ils veulent faire mardi prochain. Fait que ils vont probablement parler des Thériault. Il y a deux Thériault, Fidel et Bernard, c'est des Thériault.
Et on parle de quelle année, Philippe?
On parle des premières familles acadiennes, puis d'origine québécoise, puis française, qui vont arriver à Caraquette. Donc, il y a Gabriel Giraud qui était là dans les années 1730. Lui était un Français qui a été s'établir là. Ses enfants vont marier des familles qui vont venir s'établir. Puis après ça, le groupe à Alexis Landry qui cherche toujours à s'établir, puis à se réfugier, puis à trouver une permanence dans la baie des Chaleurs, va finalement arriver dans les années fin 1760, les années 1770. Donc là, on va voir des familles arriver là, quand les gens vont savoir que Caraquette est devenu un endroit où les gens se sont établis.
Après la déportation?
Oui, après la déportation. Comme Gabriel Giraud, lui, c'est un Français, puis il était là avant la déportation. Mais étant donné qu'il n'était pas considéré un Acadien, il ne sera pas déporté, lui. Il va rester là sur place. Puis ses enfants vont se marier avec les nouveaux qui arrivent. Puis là, les Acadiens vont arriver. Puis après ça, il y a d'autres familles qui vont arriver, soit directement de France, ou soit ils vont aller s'installer en Gaspésie. Puis la Gaspésie va traverser, puis vont s'installer de ce côté-ci de la baie des Chaleurs. Fait qu'on va avoir le groupe d'Acadiens, là, que les Dugas, les Thériault, Godin, Pinette, Cormier, Landry, Alexis Landry, les Légères, Boudreau, beaucoup de familles de ces familles-là. Ils sont tous dans le livre, d'ailleurs, tout en grand détail. Là. Après, il va y avoir d'autres familles qui sont plus pêcheurs, qui viennent de la Gaspésie, les Albert, le Mayou, Lantaigne, d'autres, plein de familles qui vont s'installer tout le long, dans le fond, tout le long sur le bord de Caraquette. Fait, c'est un peu ça, les ancêtres des familles de Caraquette. Mais le livre de Fidel, il est vraiment plus de détails que ça. Il y a les grandes familles que je viens de mentionner, mais il y a également certaines petites familles qui ont juste eu comme quelques enfants ou peut-être juste un représentant, puis il n'y a pas eu de descendance. Là. Fait qu'il y a comme plusieurs dizaines de familles qui sont dans le livre. Là.
Okay.
Des familles de Caraquette. Je pense qu'au Black Hall, par exemple, qu'on a la maison Black Hall au village acadien, ben, ils sont dans le livre, même s'ils ne sont pas typiquement acadiens. Il y a des familles anglophones, anglaises, écossaises qui sont présentes dans le livre. Il y avait des Martins en moment donné. Je pense qu'il y avait même des Cires. Juste une ou deux familles qui étaient installées dans la région de Caraquette. Les Martins, je pense qu'ils étaient sur l'île de Caraquette. Mais ce n'est pas une grosse famille. Ça. Il y a juste eu quelques personnes qui sont venues s'installer. Puis après ça, ils sont partis. C'était des filles, puis ils ont marié quelqu'un, fait que le nom n'a pas suivi.
Il n'y a-tu pas un bâtiment au village, les Martins? Non, j'ai rêvé ça. Non.
Ah, c'est pas la même.
C'est pas, ah,
la,
c'est même pas famille, la même branche.
Non, okay. C'est pas la même gang. Non. Mais c'est peut-être les mêmes ancêtres, mais c'est pas les mêmes. Là. Martin, puis il y en a un autre, puis il y a d'autres Martins. Il y a Martin en anglais aussi, qui n'est pas le même branche familiale. Comme Martin, c'était comme... Je ne veux pas que je dise un nom ordinaire, mais Martin, Martin, ça existe dans beaucoup de, mm-hmm. de groupes oh, oui. généalogiques. Là, fait que c'est un peu ça le livre là, qu'ils vont présenter mardi prochain.
Ah, ça va être intéressant quand même. Là. Vraiment oui, plus oui, complet. Oui. À part ça, vous vouliez parler de développement de la péninsule acadienne, Philippe?
Oui, j'ai assisté à un AGA, moi, le mardi, que j'ai donné une conférence, ben, c'était hier, j'ai donné une conférence, c'était le regroupement, là j'ai oublié le nom exact, là, mais c'était tous les agents qui s'occupent de l'aménagement de tout à travers la province du Nouveau-Brunswick. Donc, toutes les lois et les règlements qui dirigent ou qui gèrent les développements de terrain, la division des terres, l'urbanisme, l'aménagement territorial, tout ça. Ils étaient en rencontre pendant 2 jours ici à Caraquette. C'est tous des agents à travers la province du Nouveau-Brunswick.
Oui.
Ils m'avaient approché pour faire un peu l'histoire du développement de la péninsule acadienne, comment ça s'est développé. Je me suis dit, je vais résumer ça. C'est une conférence de 45 à 50 minutes que je vais essayer de résumer en 7-8 minutes.
Là. Ouf!
ça va aller vite, là, vous allez voir. C'est déjà quelque chose que j'ai déjà parlé. Là.
Okay.
Je pense que j'ai déjà mentionné ça dans une chronique Bathurst aussi, j'avais fait Bathurst, là, les premiers qui avaient eu des terres. Puis tout ça.
Oui, oui.
Là, on vient de parler de Giraud. Giraud, c'est comme le premier Européen à venir s'installer sur la côte. Tandis qu'auparavant, il y avait seulement les Autochtones qui étaient dans tout le nord du Nouveau-Brunswick. Fait que souvent, on utilisait les cours d'eau comme voie pour se promener là, parce qu'il n'y avait pas de voie vraiment terrestre, carrossable. Il y avait des portages jusque d'un endroit à l'autre. S'il n'y avait pas de rivière, on pouvait prendre nos canots, prendre des bateaux, marcher d'un endroit à l'autre. Là. D'où le nom, la rue du portage à Caraquette. Puis des fois, tu as des chemins de portage, puis des expressions comme ça qui étaient les anciens chemins de portage autochtones que les Européens ont empruntés également.
Rivière du portage.
Oui, c'est ça, exactement, portage. Ouais. Puis après ça, il y a les années 1770, après la guerre, après la déportation, là, les Acadiens vont commencer à arriver. Certaines autres familles vont arriver également. Puis les premières terres accordées dans tout le nord, ici, dans la région, c'est Caraquette, avec la Grande Grince. On a déjà parlé dans une autre chronique, là, en 1784. Eux autres vont avoir un gros lot de terres de 14 000 hogs de terre qui vont se diviser en 34 chefs. Fait ça, c'est comme le premier... développement officiel, légal, avec des titres de terre. Fait que ça, c'est un gros lot qui est donné à tous les chefs de famille qu'eux autres-mêmes vont se diviser par la suite. Là. Fait que ça, il faut vraiment se fier sur des descriptions quand ils vendent des lots de terre, parce que c'est pas divisé comme en petits lots. Là. Comme ça va l'être à partir des années 1787, je pense, le prochain, qui est dans la région, parce qu'il y a le village acadien, on va diviser des terres là pour les familles acadiennes, comme les Thériault, les Godin, les Pinettes vont recevoir des lots de terre. Après ça, il y a d'autres mondes qui vont recevoir des lots de terre, un peu jusqu'à le village des Poiriers, puis Maisonnette, puis jusqu'à le village acadien. On va donner des terres là, parce que c'est des terres avec des marais salants, où est-ce qu'on peut aller couper le foin de pré. Puis ça aussi, on a déjà parlé dans les chroniques, là, aller chercher le foin de pré pour nourrir le bétail. Fait que ça aussi, c'est toujours des terres intéressantes pour les fermiers acadiens, ben, pas juste les Acadiens, mais les fermiers qui sont sur les côtes, même les côtes tout le long du Nouveau-Brunswick, jusqu'à des marais salants, là, jusqu'à le foin de pré pousse naturellement. Ça, on va souvent diviser les terres, là, à Tracadie, Nigwak, toutes ces régions-là, c'est des lieux où est-ce qu'on va s'assurer que quand on a notre lot de terre, disons, avec la forêt, là, puis tout, on va s'assurer d'avoir aussi un petit lot de pré là, pas trop loin, pour aller chercher le foin de pré, le Chupagan, la Mecque, c'est plein de foin de pré sur le long des côtes. Ça. Puis après ça, ben, Nigwak va être un autre endroit à la fin des années 1700, où est-ce qu'eux autres vont commencer à recevoir des titres de terre officiels. Eux autres, ça faisait quand même un petit bout de temps qu'ils étaient là, les familles Allain, les familles Savoie, autour Robichaud. Il y a quelques familles anglaises aussi qui vont recevoir des titres de terre à partir des années 1700, début 1800. Quand on regarde comme le centre-ville de Nigwak, il y a un Fraser qui va recevoir, lui, un gros lot de terre. Puis par après, là, ça va être divisé puis vendu. Mais c'est un Fraser qui avait eu un gros lot de terre. Fait qu'il y a certains hommes anglophones d'affaires, des fois, qui reçoivent des gros lots de terre. Mais la grosse année dans la péninsule acadienne, c'est 1809. En 1809, on va donner beaucoup de terre officiellement à tous les gens de Tracadie, tous les gens d'Inkerman, Pocmouche, Shiloh, O'Shiloh, une bonne section aussi de Caraquette va recevoir des lots de terre.
Alors, on donne les lots, on les vend pas, là, on les donne.
Oui, ben ça fait longtemps qu'ils sont là, les gens, ça fait longtemps qu'ils faisaient des demandes, puis ça traînait, puis William Ferguson, qui est comme le premier Ferguson, va s'occuper de tout ça. C'est lui qui va faire les demandes en groupe. Là. À l'époque, on fait des demandes de groupe, puis celle de Tracadie, là, c'est un gros, là. Ils sont 44 chefs de famille, puis ça va comme du de sud d'Inkerman, là, quasiment comme 6 Road, 4 Road, dans ce coin-là. Là, je ne me rappelle plus exactement les limites.
Pour qu'ils deviennent propriétaires, vraiment, là.
Oui, qu'ils ont exactement leur titre de terre. Eux autres ont toujours en souvenir qu'ils se sont fait déporter ou que le grand-père s'est fait déporter. Okay. Puis qu'ils avaient fait saisir les terres. Puis c'était comme des histoires qui se racontaient de génération en génération. Mm-hmm. Puis en 1809, ben Michel Bastarache, là, mon ancêtre, lui, avait vécu la déportation. Lui, il est encore vivant. Mais c'est pas lui qui va avoir la terre officiellement, c'est ses fils. Fait qu'ils ont toujours ça de vouloir
apporter la terre légalement. C'est 50 ans plus tard, en plus.
Oui, c'est ça, c'est une cinquantaine d'années après. Fait 50 ans passés, il y a encore plein de monde qui est vivant. Ça serait comme 1975. En 1975, il y a plein de monde qui en vit encore. Là.
Ben
fait
oui.
Que c'est 50 ans. Là. Fait qu'on a toujours ça dans la tête. On ne sait jamais qu'est-ce que le futur va avoir. Surtout dans ces époques-là, il y a des guerres coloniales puis des guerres comme ça qui arrivent souvent. L'indépendance américaine, c'est juste 20 ans auparavant. Là. Fait que c'est quand même frais dans leur esprit là, des guerres proches d'eux autres. Là. Fait que c'est pour ça obtenir des titres de terre du gouvernement colonial de Fredericton à cette époque-là. C'était important pour eux autres. Là. Fait William Ferguson, lui, c'est lui qui fait la documentation. Puis après ça, on va buer les terres. Là. Après ça, c'est Grand-Anse qui va en avoir en 1818. Les Acadiens de Caraquette vont quitter la région pour aller à Grand-Anse. Puis eux vont recevoir toutes des strips de terre, là, mais de plusieurs centaines d'acres de terre. Là.
Philippe, on fait quoi? Est-ce que les gens sont obligés de cultiver, exemple, ou on fait ce qu'on veut avec notre terre?
Bien, plus tard, il va y avoir vraiment des lois en place, là, qu'il faudra vraiment avoir des... Il y aura des normes, là, comme quand est-ce qu'on va avoir le développement de Saint-Isidore, puis Paquetteville, puis tout ça, puis jusqu'aux années 50 avec Val-Doucette, puis Alorville, tu sais, les gens de Batters vont quitter pour aller à Alorville, puis beaucoup de monde de la péninsule vont aller Saint-Sauveur, Alorville. Ça va être réglementé beaucoup plus qu'à cette époque-là. Fait que, à la fin des années 1800, avec la Free Grant Act, on a déjà parlé, ces développements-là, là, il faudra avoir on a des règlements en place pour construire un bâtiment temporaire ou une maison, puis avoir tant d'arcs défrichés, puis tant d'arcs en culture, puis de la culture même entre les souches, là, ça sera correct. Fait qu'on pourra obtenir notre titre de terre gratuitement. Parce que une première loi passe après que le Canada existe, là, officiellement, en 1868, mais il fallait payer 20$, 20$. Là. Puis,
à l'époque, c'était beaucoup, là?
Ah, c'était énorme, c'est peut-être comme 200 000, 500 000 aujourd'hui.
Oh, wow.
Juste pour le terrain, en pleine forêt, avec aucun développement.
Oui.
Fait que faut imaginer que ce 20$-là, cash, c'était content, c'était trop pour eux autres. Fait que ça boucle, il n'y a rien qui s'est développé. Fait que ils ont juste à panter, puis il faudra attendre 1872, la loi pour les terres gratuites. Mais la terre gratuite, si tu veux l'avoir gratuitement, il faut que tu bâtis ta petite maison 16 par 20, qui est à peu près la grosseur de ma chambre à coucher aujourd'hui, 16 par 20. Puis, loger là ou être là au moins 3 étés à cultiver la terre, c'est 10 ou 20 acres en culture, je me souviens plus du détail, puis d'autres acres de terre juste coupés, là. Fait qu'on peut cultiver entre les souches. Puis on a des belles photos de ça, comme Saint-Sauveur à Lorville, là, au début des années 30, même Val-Doucette. Notre-Dame-des-Érables, on a comme une photo, je me souviens, maintenant c'est de Paquetteville, en allant par Notre-Dame-des-Érables, puis on voit, c'est juste un chemin tortilleux entre la forêt, puis les premiers habitants vont là-dedans. Là. Puis on a encore de ces habitants-là qui étaient vivants il y a jusqu'à pas longtemps passé. Je me souviens d'un couple là, à Lorville qui a fêté 80 ans de mariage. Ils étaient vivants il y a une dizaine d'années passées. Là. C'était un couple centenaire tous les deux. Mmh. Puis eux autres avaient été au début là, de Lorville dans les années 30 ou début 40, là, dans la forêt. Fait que c'était beaucoup de travail. C'était les familles, les chaleurs, les maringouins, les, tout ce que tu veux. Puis souvent, les gens me racontaient que pour aller dans ces coins-là, comme Butte d'Or aussi, ils allaient là l'été. Puis l'hiver, des fois, ils ne pouvaient pas rester dans leur petit camp 16 par 20 en bois, puis pas trop isolé. Fait souvent, ils restaient chez les parents durant l'hiver. Là. Fait que souvent, les premières naissances se faisaient dans la maison des parents. Puis après ça, ils allaient dans leur camp qui était comme soit amélioré ou soit éventuellement, ils démolissaient puis construisaient les maisons qu'on retrouve comme aujourd'hui, là, le style de maison là, des années 30-40 qui ont été conçus plus permanents là, pour les familles. Là.
Ben, c'est fort intéressant tout ça. C'est déjà tout le temps qu'on a, malheureusement, Philippe. On pourra peut-être s'en parler à un moment donné. Avant de vous quitter, cependant, on peut mentionner que le village historique acadien est terminé pour la saison. Alors, les visites ne se font plus, mais les gens peuvent aller quand même sur le site pour marcher, Philippe.
Oui, nous autres, on fait beaucoup de travail de préparation pour
la prochaine saison.
Ouais, pour l'hiver.
Oui,
on a rencontré des gens d'Autriche d'Autriche puis de la France qui viennent visiter le marché, puis des gens du Québec, toutes sortes de places. Fait qu'on peut quand même marcher dans le village. Il faut faire attention parce que nous autres, on se promène en voiture, les gens se promènent à pied. Puis avant-hier, on a eu un autobus de 33 Français qui était en visite. Ils étaient partis de Niagara Falls, puis ils ont monté en autobus, puis ils sont venus au village acadien. Puis je pense qu'ils allaient voir les baleines dans la Bitte Fundy.
Okay.
Fait que ça, on a des autobus aussi comme ça qui se voyagent dans la région. Fait qu'on a encore des visiteurs d'Europe, beaucoup qui visitent nos régions. Là.
Super. Merci, Philippe.
À la semaine prochaine.
Bye-bye.
Envie de prendre une marche, mais tanné de votre circuit habituel? Profitez de la saison des marcheurs au Village historique acadien. De la mi-septembre au mois de mars, le site historique est ouvert gratuitement aux marcheurs tous les jours, de 8h à 16h, quand le temps le permet. Avant de partir, vérifiez l'état du sentier en visitant le www.facebook.com/villagehistoriqueacadien.com. Les chiens en laisse sont acceptés, tout comme les vélos. Bonne randonnée!